Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. En outre, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous pouvez trouver une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Alors que dans une grande partie de l'Argentine, les activités commencent lentement à reprendre, en raison de la baisse des cas de Covid-19, la ville et la province de Buenos Aires envisagent de prolonger la période d'isolement en raison du nombre élevé de personnes infectées dans la région la plus peuplée du pays. Entre-temps, le gouvernement national s'occupe également de la renégociation de la dette avec les détenteurs d'obligations privées, dans le contexte d'une situation économique qui s'est aggravée dans le pays en raison de la pandémie. Dans ce cadre, le Fonds monétaire international a estimé que l'offre de l'Argentine aux détenteurs d'obligations est compatible avec le rétablissement de la viabilité de la dette. L'agence a déclaré qu'il n'y a qu'une marge limitée pour augmenter les paiements aux créanciers privés et, en même temps, atteindre les seuils de la dette et du service de la dette estimés par le personnel du FMI. La déclaration du FMI est considérée comme une approbation importante de la proposition de l'Argentine, étant donné l'expiration du délai de paiement aux créanciers internationaux. Par ailleurs, le président Alberto Fernández a souligné que ceux qui ont le plus de besoins et ceux qui en ont le plus peuvent s'associer à l'État pour créer une société plus juste. Fernández a fait ses déclarations lors de l'inauguration d'un hôpital solidaire pour les patients sans couverture médicale monté sur le terrain de l'hôpital privé Austral dans la ville de Pilar, dans la banlieue de Buenos Aires. Il y a 5 ans, le 3 juin 2015, les rues de Buenos Aires et autres grandes villes argentines étaient envahies par des femmes. Venait de naître le mouvement de Ni Una Menos, pas une de moins, contre les féminicides dans le pays. Sans défiler à cause du confinement dû au coronavirus, pour en parler, nous allons partager un reportage de Arte qui passait à l'antenne en France en 2019.
Elles battent le tambour contre l'inconcevable. En Argentine, une femme est assassinée toutes les 32 heures, le plus souvent par son conjoint ou son ex-compagnon. En 10 ans, elles sont près de 3000 à avoir succombé aux violences conjugales. En Argentine, une femme a pratiquement deux fois plus de risques d'être tuée qu'en Europe. Le mouvement Ni Una Menos, pas une de moins, fait régulièrement descendre des milliers de personnes dans la rue. Ensemble, elles réclament l'égalité et la justice. Monica Garnica est l'une de ces victimes. À 25 ans, elle a été brûlée et assassinée par le père de ses enfants la veille de Noël, il y a bientôt 2 ans. Depuis, les 3 enfants de Monica vivent chez leurs grands-parents, qui s'occupent souvent de leurs 4 autres petits-enfants. Avant la mort de Monica, ils n'avaient entendu parler de la vague de féminicides qui sévit en Argentine qu'à la télévision.
L'homme qui vivait avec ma fille semblait être quelqu'un de bien. Je ne sais pas s'il faisait semblant ou s'il était sincère. En tout cas, nous n'avons jamais rien vu de mauvais en lui. Je veux le regarder dans les yeux et qu'il me dise tout. Je veux lui demander pourquoi il a fait ça à ma fille. Pourquoi il n'a pas pensé à ses enfants.
Freddy Garnica s'efforce de maintenir la famille à flot en enchaînant les petits boulots. Il a perdu son emploi dans une imprimerie quelques mois avant la mort de sa fille.
Je souffre beaucoup, mais je ne le montre pas. Je ne le montre à personne, pas même à ma femme, car elle aussi, elle souffre. Mais je ne veux pas qu'elle craque parce que moi, je me sens mal. Oui, je reste l'homme de la maison, comme si rien ne s'était passé, car je dois veiller à leur bien-être, à tous.
L'assassin présumé est en détention provisoire. La famille de Monica attend que la justice fasse son travail. Le féminicide est inscrit dans le code pénal argentin depuis 2012. Et l'avocate Monica Cugnaro a été l'une des premières à obtenir la perpétuité pour ce type de crime.
Sur les photos, on se rend compte qu'il s'agit d'un meurtre cruel et sanglant. L'homme a frappé la victime à plusieurs reprises. Il lui a porté 13 coups de couteau. Cela peut sembler être un cas isolé, et pourtant ce n'est absolument pas le cas.
Le machisme, profondément ancré dans toutes les couches de la société argentine, serait l'une des causes de ces féminicides. Selon l'avocate, beaucoup de femmes assassinées ont longtemps souffert de violences. Et souvent, elles ont porté plainte avant leur mort. Mais peu de choses sont faites pour les protéger.
Il n'y a pas d'argent pour ça. L'État ne débloque pas de fonds parce que ça ne fait pas partie de sa politique. Il ne s'intéresse pas à la question. Sinon, on ne manquerait pas de foyers d'accueil ou de programmes de soutien pour les femmes. Le peu qui est fait arrive souvent trop tard, ou alors il faut qu'un policier ou un juriste s'en occupe personnellement, comme je le fais.
Monica Cugnaro salue la pression de la rue. Le mouvement féministe argentin a, selon elle, amorcé un changement de mentalité chez les jeunes. Ni Una Menos ne se contente pas de manifester. Le collectif organise aussi des réunions dans des lieux publics, comme ici dans le quartier d'Almagro, à Buenos Aires. Hommes et femmes débattent ensemble des droits des femmes et proposent des solutions pour plus d'égalité et moins de violence. Distribution de soupe aux lentilles pour tout le monde, tandis que les enfants confectionnent des banderoles en vue de la prochaine manifestation. Veronica Gago est l'une des organisatrices des manifestations de Ni Una Menos.
Les manifestations ont commencé comme un cri de colère. Elles sont parties du meurtre d'une jeune femme, Chiara Paez, en 2015. Plusieurs autres affaires ont été relayées par la suite.
Selon cette sociologue, l'un des objectifs du mouvement est aussi d'extraire les femmes du seul rôle de victime.
Le mouvement féministe a réussi à véhiculer le message suivant. Nous souffrons, nous sommes en deuil, mais nous sommes des battantes. Nous allons trouver le moyen d'obtenir ce que nous réclamons et de lutter contre la violence.
Permiso, buenas tardes, venimos a visitarte.
Marcela Moreira a fait une tentative de suicide après la mort de sa fille, tuée par son compagnon alors qu'elle était enceinte. Elle a choisi de soutenir un foyer d'accueil privé pour femmes. Aider les autres lui permet d'avancer.
C'est tellement important de venir ici et d'apporter de l'aide. Je ne me contente pas de contributions matérielles qui permettent au foyer de fonctionner. Pour moi, c'est important d'être en contact avec ces femmes, de leur parler, de les prendre dans mes bras. Ça me fait du bien, ça guérit les blessures de l'âme.
Nancy Huguette est atteinte d'un cancer, ce qui ne l'empêche pas d'héberger jusqu'à 50 femmes et enfants. Elle prend le relais là où l'État a échoué. L'Argentine compte aujourd'hui 89 foyers pour femmes. C'est peu quand on sait que l'an dernier, le pays a enregistré 143 000 plaintes pour violence contre des femmes.
Quand j'ai vu mes proches et mes amis endurer les violences, les maltraitances et être soumises, je me suis sentie impuissante. Le problème était toujours le même. Où pouvait-elle bien aller ? Un jour, j'ai dit à l'une d'entre elles, « Tu n'as qu'à venir chez moi. » Elle a été la première.
Les femmes gagnent l'argent qui leur permet de vivre en revendant des vêtements d'occasion. Nous n'avons pas pu les filmer car leurs maris ne doivent pas savoir où elles se trouvent. Parfois, certaines femmes maltraitées décident de rentrer chez elles, pensant que leur conjoint a changé. Marcela tente de les raisonner.
Le plus souvent, je me montre assez dure avec elles. Je leur dis, regarde où ça a mené ma fille. Tu veux finir comme ça, toi aussi ? Moi, je n'ai pas envie d'aller fleurir ta tombe.
Une journée difficile attend les parents et la sœur de Monica. Ils se sont mis en route de bon matin. Aujourd'hui s'ouvre le procès du meurtrier de Monica. Il est censé prendre la parole. Les proches de la jeune femme espèrent un jugement équitable, même si rien n'est gagné, car après un féminicide, les acquittements ou les peines dérisoires ne sont pas rares.
J'espère que justice sera rendue, qu'il aura droit à la peine maximale et qu'il va moisir en prison. Afin qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à une autre femme, c'est ce que nous espérons tous.
D'autres parents de femmes assassinées attendent déjà devant le tribunal. Sur leurs vêtements, ils arborent la photo d'une victime. Certains se battent depuis des années contre l'impunité des meurtriers.
Nous, les proches, nous devons nous serrer les coudes. Nous avons vécu la même chose et nous avons besoin de soutien. Nous savons ce que les parents de Monica traversent en ce moment. Ils revivent la mort de leur fille. Nous devons nous aider les uns les autres.
Pour la première fois depuis le drame, les parents de Monica se retrouvent face aux meurtriers de leur fille. Ambiance tendue. Plusieurs témoins ont été menacés par la famille de l'assassin. Mais cela ne les empêche pas de prendre la parole et d'accabler Miguel Saracho. Il aurait crié à Monica « Je vais te tuer ». Émus, les parents de Monica écoutent la déclaration du meurtrier. Va-t-il reconnaître son crime ?
J'ai sorti les vêtements de l'armoire pour y mettre le feu. Elle les a jetés au sol. J'ai pris de l'alcool et je l'ai versé sur les vêtements qui étaient par terre. Quand j'ai mis le feu, elle s'est jetée dessus.
L'accusé tente de présenter son crime comme un accident. L'enquête révèle toutefois qu'il a bien poussé Monica dans le brasier, comme le prouvent les brûlures au niveau de ses poignets et de ses chevilles. Le tribunal tranche. Ce sera la peine maximale, la réclusion à perpétuité.
Au nom des femmes assassinées, merci. Je tire mon chapeau à ce tribunal. Merci.
Je me sens un peu apaisée, mais elle n'est plus là. Et lui est toujours en vie. Je dois maintenant me battre pour mes petits-enfants. Ma fille aurait tellement voulu que justice soit rendue. Et justice a été rendue.
Pour d'autres, l'attente est beaucoup plus longue. Certaines affaires ne passeront peut-être même jamais en jugement. Il y a 8 ans, Mayra Maïdana a survécu de justesse à une tentative d'assassinat de son mari. Il l'a aspergé d'alcool, puis il a mis le feu. Jamais emprisonné, il a depuis fondé une nouvelle famille. Avec sa mère, Mayra déploie la petite piscine qui lui a sauvé la vie.
Cette piscine m'a sauvée. Je pense que si elle ne s'était pas trouvée là, je n'aurais pas survécu. C'était le seul endroit où il y avait de l'eau à la maison.
Son mari avait fermé l'accès à l'eau de la citerne. Mayra a dû subir 52 opérations. Elle a perdu son œil droit et porte désormais un appareil auditif.
Je crois que ça leur fait plaisir de se dire que les hommes ne nous regarderont plus jamais. Ça fait partie de leur satisfaction quand ils n'ont pas réussi à nous tuer, parce que c'est ça qu'ils voulaient. Quand on met le feu à une personne, on ne s'attend pas à ce qu'elle survive.
La mère de Mayra conserve ses pièces à conviction depuis la tentative de meurtre. La chemise que portait Mayra cette nuit-là et la bouteille d'alcool dont s'est servi son mari. Mais cette affaire n'intéresse pas la police. Pour autant, les deux femmes n'abandonnent pas l'espoir que justice soit rendue. Malgré les manifestations régulières, le nombre de féminicides ne baisse pas. Et la crise économique qui frappe l'Argentine n'arrangera pas la situation, selon la sociologue Véronica Gago.
La crise économique signifie aussi un taux de chômage plus élevé et des salaires qui ne permettent plus de joindre les deux bouts. Il y a de plus en plus de trafic illégal et un regain de violence dans les quartiers. Tout cela contribue à l'augmentation des violences conjugales.
Les manifestations appellent toute la société à revoir ses a priori et visent à redonner confiance aux femmes. Aujourd'hui, elles sont 2 fois plus nombreuses à porter plainte suite à des violences conjugales qu'au début des manifestations, il y a 4 ans. Le mouvement protestataire ne vise pas les hommes, mais avant tout le machisme et l'idée que la femme est un objet qui appartient à son mari. Mayra et sa mère arrivent au collège de Quilmes, à 20 km de Buenos Aires. Un groupe d'élèves les a invités à venir discuter des violences conjugales. Pour Mayra, il est important de raconter son histoire afin qu'aucune jeune fille, aucune femme ne connaisse le même destin.
Quand as-tu remarqué que cette relation battait de l'aile ?
Dès le début, j'ai compris que quelque chose clochait. Nous allions encore à l'école. Il faisait souvent preuve d'une jalousie maladive. Mais je me suis dit que ça passerait, qu'il se calmerait, qu'il changerait. C'était ce qu'il disait tout le temps. Mais le changement ne durait jamais bien longtemps.
Mayra en est sûre. Le mouvement Ni Una Menos a déjà changé des choses pour la génération à venir, chez les filles comme chez les garçons.
Je suis ravie qu'autant de jeunes s'intéressent à ce sujet, dans des conférences, dans les manifestations, partout. Ça me rassure, nous mettons un frein à la violence. Nous arrivons à faire comprendre aux gens que ce qui se passait avant n'était pas normal. À l'époque, on se disait, il vaut mieux que je me taise, parce que c'est mon mari.
Permettre aux femmes de disposer de leur propre corps, c'est aussi ce que réclame ce mouvement. En clair, le droit à l'IVG. Mais pour certains, cette revendication va trop loin. Les militants chrétiens anti-avortement défilent aussi dans les rues. Ils brandissent le drapeau argentin et demandent un durcissement des lois. En Argentine, l'avortement est illégal. Mais les juges peuvent autoriser une interruption de grossesse en cas de viol ou lorsque la vie de la mère est menacée. Mais pour ces manifestants, de telles exceptions sont inacceptables. Ils s'opposent ouvertement au mouvement Ni Una Menos.
C'est contradictoire, non? Ils réclament les droits des femmes, mais le premier des droits est celui de la vie. Demander la mort d'un enfant à naître, ce n'est pas revendiquer les droits de tous, seulement ceux de certains. Ils placent la volonté de la femme avant le droit à la vie, qui est le droit le plus fondamental.
Cette manifestation a été organisée en soutien à un médecin condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour avoir refusé de pratiquer une IVG sur une femme violée. Un héros aux yeux des anti-avortements. Il propose que les femmes violées mènent leur grossesse à terme, puis confient l'enfant à l'adoption.
C'est un bébé de 10 semaines. Il est tout petit, mais il a envie de vivre.
Il y a 1 an, le Parlement a rejeté à une courte majorité un projet de loi prévoyant un assouplissement de la loi sur l'avortement. Mais le fait que le sujet ait été abordé est une révolution dans une Argentine ultra-catholique. Malgré l'interdiction, 500 000 femmes ont chaque année recours à l'avortement clandestin, selon les estimations des ONG. 10% de ces femmes sont confrontées à des complications. Elles sont alors admises aux urgences dans des hôpitaux, comme ici à La Plata, à 1 heure de Buenos Aires.
Où commence la vie, où commence la conscience humaine, on peut en débattre pendant longtemps. Personnellement, cela me dépasse. Je vois des femmes mourir. Si je parle de féminicide, lorsqu'une femme meurt suite à un avortement clandestin, c'est parce que l'État a échoué à tous les niveaux, en amont.
Médecin en soins intensifs, Elisa Estensoro appuie les revendications du mouvement Ni Una Menos en faveur d'un avortement légal et gratuit et d'une meilleure éducation sexuelle. Ce mémorial en plein centre de Buenos Aires rend hommage aux victimes de féminicides. Régulièrement, leurs mères, pères, frères et sœurs s'y rassemblent avec un seul but: faire en sorte que la société ne détourne pas les yeux. Malgré la souffrance, au terme de chaque rencontre, ils clament les noms des victimes. Pas une ne doit être oubliée.
Marisol Pereira,
présente.
Erika Quintero,
présente.
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
Mónica Garnica,
presente.
Mónica Garnica,
presente.
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
C'est une journée douloureuse pour les parents de Mónica Garnica. Aujourd'hui, leur fille aurait eu 27 ans. Elle est inhumée dans un cimetière privé. Même si la famille peine à payer les mensualités, ils ont voulu offrir un cadre paisible à leurs petits-enfants pour se recueillir sur la tombe de leur mère.
Je
Il confie à leur fille défunte que son assassin a été jugé et que ses enfants recevront désormais une rente d'orphelin. Une indemnité pour les enfants des femmes assassinées, c'était l'une des revendications du mouvement Ni Una Menos. Depuis peu, elle est inscrite dans la loi. Ce n'est pas grand-chose, mais les enfants de Monica sont parmi les premiers à bénéficier de ce dispositif. La famille Garnica continuera malgré tout à participer aux manifestations du collectif pour que d'autres parents n'aient pas à leur tour à enterrer leur fille.
Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad.